de la lente diffusion de la cogestion germanique et nordique. Résumons. Dans les pays germaniques et nordiques, notamment en Allemagne, Autriche, Suède, Danemark et Norvège, les représentants des salariés ont entre un tiers et la moitié des sièges et des droits de vote au sein des conseils d'administration des entreprises, ou tout du moins des plus grandes d'entre elles, indépendamment de toute participation au capital. Dans le cas de l'Allemagne, pays précurseur sur ces questions, le système est en place depuis le début des années 1950. Pourtant, jusqu'aux années 2010, en dépit des succès largement reconnus du modèle social et industriel germanique et nordique, caractérisé par un haut niveau de vie et de productivité et une inégalité modérée, les autres pays n'ont pas suivi ce mouvement. Au Royaume-Uni comme aux États-Unis, en France comme en Italie ou en Espagne, au Japon comme au Canada ou en Australie, les entreprises privées ont continué d'être gouvernées suivant les règles immuables des sociétés par action. Autrement dit, l'Assemblée générale des actionnaires continue dans tous ces pays de désigner la totalité des administrateurs sur la base « une action, une voix », sans aucune représentation pour les salariés, ou bien parfois avec une représentation purement consultative, sans droit de vote. Les choses ont commencé à changer légèrement avec l'adoption en France en 2013 d'une loi contraignant les entreprises de plus de 5000 salariés à avoir un siège sur 12 pour les salariés dans leur conseil d'administration. Depuis 2015, le seuil a été abaissé et la loi s'applique aux entreprises de plus de 1000 salariés en France ou plus de 5000 dans le monde. Ces nouvelles règles françaises sont toutefois extrêmement restrictives par comparaison au système en vigueur dans les pays germaniques et nordiques, aussi bien du point de vue du nombre d'administrateurs salariés que du champ d'entreprises couvertes. Il n'est certes pas exclu que de tels dispositifs soient étendus au cours des années 2020, non seulement en France, mais également au Royaume-Uni et aux États-Unis, où des propositions relativement ambitieuses et novatrices ont récemment été débattues et reprises par des responsables travaillistes et démocrates. Si ces propositions françaises et anglo-saxonnes étaient appliquées, il est possible que les conditions d'une diffusion mondiale beaucoup plus large seraient alors réunies. Il reste qu'en 2019, si l'on excepte le maigre siège français introduit en 2013, les dispositifs de partage du pouvoir et de cogestion demeurent étroitement confinés aux pays germaniques et nordiques. Il s'agit encore aujourd'hui de la marque de fabrique du capitalisme rhénan et scandinave, et non du capitalisme anglo-saxon, ni d'ailleurs du capitalisme français, latin ou nippon. Comment expliquer une diffusion aussi limitée et aussi lente si l'on compare par exemple à la diffusion rapide et généralisée de la progressivité fiscale à grande échelle à l'issue de la Première Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres? La première explication est que le fait de donner une part substantielle des droits de vote aux salariés, en l'absence de toute participation au capital, représente une remise en cause relativement radicale de la notion même de propriété privée, à laquelle les actionnaires et les propriétaires se sont toujours opposés avec une énergie particulière. Il est aisé de défendre l'idée théorique d'une certaine diffusion de la propriété, y compris pour des partis politiques relativement conservateurs sur le plan économique. Le mouvement gaulliste, en France, a ainsi promu l'idée de participation, notion qui recouvre à la fois l'actionnariat salarié et la possibilité de primes salariales indexées sur les bénéfices, mais sans droit de vote. Les conservateurs britanniques, comme les républicains états-uniens, ont régulièrement défendu l'actionnariat populaire, par exemple lors des privatisations thatchériennes des années 1980. Mais changer les règles reliant la propriété du capital et le pouvoir de disposer librement du bien en question, pouvoir qui est réputé absolu dans les définitions classiques de la propriété, et créer en l'occurrence des droits de vote pour des personnes qui ne possèdent rien, constituent des opérations très déstabilisantes d'un point de vue conceptuel, plus encore d'un certain point de vue que l'impôt progressif. En Allemagne, comme dans les pays nordiques, seules des circonstances historiques spécifiques et une mobilisation particulièrement forte du mouvement syndical et des partis sociaux-démocrates ont rendu possibles ces transformations et ces réécritures du droit de la propriété et des entreprises. La seconde explication, complémentaire à la première, est précisément que les forces politiques et sociales dans les autres pays n'avaient pas la même détermination pour imposer ces règles, pour des raisons qui tiennent aux trajectoires politico-idéologiques propres à chaque pays. Dans le contexte français, on considère souvent que le goût durable du mouvement socialiste pour les nationalisations, qui constituait par exemple le socle du programme d'union de la gauche dans les années 1970, et son peu d'appétence pour la cogestion, tiennent à l'idéologie réputée étatiste du socialisme français et à son faible lien avec le mouvement syndical. De fait, aucune mesure visant à instituer des administrateurs salariés dans les entreprises privées ne fut prise entre 1981 et 1986, période au cours de laquelle les socialistes disposaient pourtant d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le rôle des délégués syndicaux dans les négociations sur les salaires et les conditions de travail fut étendu, et d'autres mesures favorisant la décentralisation et la participation furent mises en œuvre dans d'autres secteurs, comme la plus grande liberté laissée aux collectivités locales. Mais le lien exclusif entre actionnariat et pouvoir décisionnaire dans les entreprises ne fut pas brisé. En revanche, la grande loi de nationalisation de 1982 entreprit de compléter les nationalisations de la Libération en englobant dans le secteur public la quasi-totalité du secteur bancaire et les principaux groupes industriels, et en y nommant, par conséquent, des administrateurs choisis par l'État en lieu et place des administrateurs choisis par les actionnaires. Autrement dit, les socialistes français considérèrent que l'État et ses hauts fonctionnaires étaient capables d'intervenir dans tous les conseils d'administration du pays, mais que les représentants des salariés n'y avaient pas leur place. Puis le retour au pouvoir en 1986-1988 des partis gaullistes et libéraux, dans le contexte nouveau des privatisations et dérégulations thatchériennes-reaganiennes et de l'effondrement graduel du bloc communiste, conduisit à la mise en vente de l'essentiel des entreprises nationalisées en 1945 et en 1982. Le mouvement de privatisation s'est d'ailleurs en partie poursuivi pendant les législatures 1988-1993, 1997-2002 et 2012-2017, au cours desquelles les socialistes étaient au pouvoir sans pour autant que la cogestion germano-nordique soit mise en place, à l'exception de la timide et tardive loi de 2013. Les socialistes et communistes français auraient également pu choisir d'imposer la cogestion dès 1945-1946, mais préférèrent se concentrer sur d'autres combats, comme les nationalisations et la sécurité sociale. Il n'est pas certain, toutefois, que l'explication pour ce peu d'appétence pour la cogestion soit attribuable à la faiblesse du syndicalisme français. D'une part, s'il est vrai que le mouvement ouvrier est historiquement moins puissant et structuré en France qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, et moins étroitement lié aux partis politiques, il n'en reste pas moins que les syndicats et les mobilisations sociales ont joué un rôle essentiel dans l'histoire politique du pays, en particulier en 1936, 1945, 1968, 1981, 1995 et 2006. D'autre part, et surtout, la cogestion germano-scandinave ne s'est pas davantage étendue au Royaume-Uni, alors même que le Labour Party est structurellement lié depuis ses origines au puissant mouvement syndical britannique. L'explication la plus probable pour ce manque d'appétence partagée est que les socialistes français, comme les travaillistes britanniques, ont longtemps considéré que seules les nationalisations et la propriété étatique des grandes entreprises permettaient de véritablement changer les rapports de force et de dépasser le capitalisme. C'est évident dans le cas de la France, comme l'indique le programme de 1981, mais cela l'est tout autant pour le Royaume-Uni. La constitution du Parti travailliste de 1918, au travers de sa fameuse « clause 4 », fixait pour objectif central la collectivisation des moyens de production, ou tout du moins a été interprétée comme telle. Les programmes travaillistes promettaient encore dans les années 1980 de nouvelles nationalisations et une extension indéfinie du secteur public, jusqu'à ce que le New Labour de Tony Blair parvienne en 1995 à supprimer de la clause 4 toute référence au régime de propriété. Socialistes, travaillistes, sociodémocrates, trajectoire croisée. De ce point de vue, c'est plutôt le SPD qui constitue une exception. Alors que les partis français et britanniques attendent la chute de l'Union soviétique en 1989-1991 pour renoncer aux nationalisations comme élément central de leur programme, les sociaux-démocrates allemands adoubent dès 1950 les principes de la co-gestion et abandonnent les nationalisations à Bad Godesberg en 1959. Il est intéressant de noter qu'il en allait différemment dans l'entre-deux-guerres. Dans les années 1920 et 1930, le SPD plaçait les nationalisations au cœur de son programme, de la même façon que ses équivalents français et britanniques, et ne s'intéressait guère à la co-gestion. Si les choses ont changé en 1945-1950, c'est donc du fait des spécificités de la trajectoire politico-idéologique allemande. Outre le fait que les très durs affrontements de l'entre-deux-guerres entre SPD et KPD ont laissé des traces, les sociaux-démocrates ouest-allemands ont toutes les raisons en 1950 de vouloir se démarquer des communistes est-allemands et de la propriété étatique. L'expérience traumatisante d'un pouvoir étatique hypertrophié sous le régime nazi a sans doute également contribué aux yeux du SPD et de l'opinion allemande à disqualifier les nationalisations et la propriété d'État, ou tout du moins à rehausser l'attrait des solutions autogestionnaires. En tout état de cause, il est intéressant de noter que l'abandon, au début des années 1990, de la référence aux nationalisations ne conduisit pas pour autant les socialistes français et les travaillistes britanniques à épouser l'agenda cogestionnaire. Au cours de la période 1990-2010, les uns et les autres ne paraissent plus vraiment habités par la moindre volonté de transformation du régime de propriété. Le capitalisme privé et le principe « une action, une voix » semblent devenir pour eux des horizons indépassables, au moins temporairement. Ils y contribuèrent d'ailleurs en poursuivant certaines privatisations, autant qu'en soutenant la libéralisation des flux de capitaux et la course-poursuite à la baisse sur la fiscalité des sociétés. Dans le cas français, le fait que la cogestion soit finalement revenue sur le devant de la scène avec la timide loi de 2013 doit beaucoup aux revendications cogestionnaires de certains syndicats, en particulier de la CFDT, et surtout au succès de plus en plus évident du secteur industriel allemand. Dans un contexte où la référence à l'Allemagne et à son modèle économique devenait omniprésente à la fin des années 2000 et au début des années 2010, en partie pour de bonnes raisons, il devenait de plus en plus difficile pour les actionnaires et employeurs français de refuser la cogestion et d'expliquer que la présence de salariés allait semer le chaos au sein de conseils d'administration. La timidité de l'avancée de 2013, par comparaison aux pratiques germaniques et nordiques en place depuis des décennies, en dit long sur les résistances politico-idéologiques en jeu et aussi sur le caractère souvent étroitement national de ces processus d'apprentissage et d'expérimentation. Dans le cas britannique, le besoin de trouver de nouvelles pistes pour lutter contre la montée des inégalités tout autant que le changement de leadership travailliste en 2015, en partie du fait de l'insatisfaction avec la ligne blairiste et la dérive inégalitaire du pays, contribuèrent, au cours des toutes dernières années, au développement d'un nouvel agenda politique sur ces sujets. On constate à la fois une approche plus ouverte sur les questions de nationalisation, les entreprises publiques étant de nouveau envisagées comme une forme souhaitable dans certains secteurs, comme les transports ou la distribution d'eau, ce qui témoigne d'un certain pragmatisme par rapport à la phase précédente, et la promotion d'un nouveau système de droit du travail, de gouvernance des entreprises à la britannique. La popularité croissante de l'idée d'une représentation des salariés au sein des conseils d'administration dans les pays anglo-saxons, que l'on a également vu brandie ces dernières années par des démocrates états-uniens autrefois sceptiques, et même par certains conservateurs britanniques, s'explique sans doute également par le fait qu'il s'agisse d'une mesure sociale qui ne coûte rien aux finances publiques, ce qui est particulièrement précieux en ces temps d'inégalités croissantes et de déficits en hausse. Pour toutes ces raisons, bonnes et mauvaises, il est probable que ces questions continueront d'occuper les débats des années à venir, sans qu'il soit possible à ce stade de dire quand et comment le changement se produira. D'une directive européenne cogestionnaire à la proposition 2X plus Y. Avant d'en arriver à ces perspectives nouvelles, Il faut toutefois insister sur le fait que les différentes trajectoires politico-idéologiques qui viennent d'être résumées ne sont que celles qui sont advenues. Il en est de multiples autres qui auraient pu advenir, car l'histoire des régimes de propriété, de même que l'histoire des régimes inégalitaires en général, est composée de multiples points de bifurcation possibles et ne saurait être envisagée suivant une perspective linéaire et déterministe. Un cas particulièrement intéressant est celui de la proposition dite 2x plus y, débattue au Royaume-Uni en 1977-1978. Le premier ministre travailliste, Harold Wilson, avait commandé en 1975 un rapport sur la question à une commission présidée par l'historien Alan Bullock et composée de juristes, de syndicalistes et d'employeurs qui lui rendirent leurs conclusions en 1977. Ce rapport faisait suite à une demande de la Commission européenne qui, sous la pression notamment de l'Allemagne, tentait à l'époque de faire adopter une directive européenne sur le droit des sociétés. Dans le projet publié en 1972 par les autorités de Bruxelles, toutes les entreprises au-delà de 500 salariés devaient avoir au moins un tiers d'administrateurs salariés au sein de leur conseil d'administration. De nouveaux projets de directive virent le jour en 1983 et 1988, mais l'ensemble fut finalement abandonné, faute d'une majorité suffisante de pays européens pour l'adopter. Nous reviendrons sur les règles de prise de décision européenne qui rendent presque impossible l'adoption de ce type de politique commune, aussi bien pour ce qui est de réforme du système légal que du système fiscal et social, et que seule une profonde démocratisation des institutions pourrait permettre de changer. Il est néanmoins intéressant de constater qu'une tentative relativement avancée de promotion d'un modèle européen de partage du pouvoir entre salariés et actionnaires ait eu lieu en Europe dans les années 1970 et 1980. Toujours est-il que la commission Bullock proposa en 1977 au gouvernement travailliste britannique d'adopter le système dit 2X plus Y. Concrètement, dans toutes les entreprises au-delà de 2000 salariés, les actionnaires et les salariés élisent chacun un nombre X de membres du conseil d'administration et l'État complète le tour de table en nommant un nombre Y d'administrateurs indépendants qui, en cas d'égalité des voix entre les actionnaires et les salariés, pourrait s'avérer décisif. Par exemple, le conseil d'administration pouvait comporter 5 actionnaires, 5 salariés et 2 représentants de l'État. Les statuts de l'entreprise pouvaient faire varier X et Y, mais ne pouvaient rien changer au fait que ce Board of Directors, ainsi que l'on appelle le conseil d'administration des entreprises anglo-saxonnes, était seul compétent pour les décisions les plus importantes, nomination et révocation de la direction, approbation des comptes, distribution de dividendes, etc. Sans surprise, les actionnaires et la City étaient vent debout contre cette proposition qui bouleversait radicalement les conceptions habituelles du capitalisme privé et qui allait potentiellement bien au-delà de la cogestion à l'allemande ou à la suédoise. La proposition était vivement soutenue par les syndicalistes et la plupart des travaillistes, et aucun compromis ne semblait en vue. Au début de l'automne 1978, le nouveau premier ministre travailliste, James Callaghan, qui avait remplacé Wilson en 1976, envisagea sérieusement de convoquer des élections, à un moment où les sondages annonçaient une victoire du Labour. Il décida finalement d'attendre un an de plus. Le pays fut immobilisé par de multiples conflits sociaux pendant le Winter of Discontent, 1978-1979, dans un contexte social inflationniste en pleine ébullition. Les Tories, menés par Margaret Thatcher, remportèrent finalement les élections de 1979 et le projet fut définitivement enterré.